Le journal est présenté par Stanislas Vazak.
Bonsoir. Charlie Hebdo ressort les caricatures de Mahomet à la veille du procès des attentats de janvier 2015. Les dessins qui représentent le prophète font la une du numéro spécial à paraître demain. Dossier dans ce journal avec les explications de Fiona Mogadam et le commentaire de notre invité, l'essayiste Anastasia Colosimo. Fermez le banc, dit Jean Castex, s'il n'y a pas de polémique au sein du gouvernement autour d'un éventuel ensauvagement de la société. Le Premier ministre a tenté aujourd'hui d'arbitrer la querelle sémantique qui oppose Gérald Darmanin à Éric Dupond-Moretti. Emmanuel Macron à Beyrouth, le président français demande à la classe politique libanaise un gouvernement de mission pour relever le pays. Dans ce journal également, les curieux propos de Donald Trump hier soir à la télévision. Le président américain a semblé utiliser des arguments complotistes pour expliquer le climat de violence aux États-Unis. Il est encore possible en France de caricaturer le prophète. Charlie Hebdo en administre une preuve éclatante aujourd'hui en republiant les caricatures de Mahomet à la veille du procès des attentats de janvier 2015. Ces mêmes dessins qui avaient attiré sur le journal la haine meurtrière des djihadistes le 7 janvier 2015. Les frères Kouachi avaient décimé la rédaction en tuant 12 personnes au total. À partir de demain, ce sont les complices présumés des frères Kouachi qui seront jugés. Fiona Mogadam, Charlie Hebdo a choisi ce moment fort pour défendre finalement le droit au blasphème.
Pour accompagner ces caricatures en une de ce numéro spécial, il y a ce titre sur fond noir, tout ça pour ça. Ces caricatures font désormais partie de l'histoire pour la rédaction de Charlie Hebdo. C'est ce qu'elle explique dans un article publié sur son site internet. Elle n'hésite pas à parler de pièces à conviction, car elles doivent permettre à tous, y compris aux plus jeunes, de comprendre le mobile de l'attaque qui a visé le journal satirique le 7 janvier 2015. Car en 2006, quand Charlie Hebdo a publié ces mêmes caricatures, il avait commencé à faire l'objet de menaces. Plusieurs associations musulmanes l'avaient attaqué en justice, mais le tribunal correctionnel de Paris avait estimé que les limites à la liberté d'expression n'étaient pas dépassées, même si ces caricatures pouvaient être choquantes, voire blessantes pour les musulmans. La dernière caricature de Mahomet, publiée par le journal, date de janvier 2015, juste après les attaques. On y voyait le prophète avec cette pancarte « Je suis Charlie », accompagné du titre « Tout est pardonné ». Pour la rédaction, il fallait une bonne raison pour publier de nouvelles caricatures avec du sens et qui apportent au débat. Le faire maintenant lui a donc semblé indispensable. Harris, le directeur de Charlie Hebdo, d'ajouter ce message dans son édito. Nous ne nous coucherons jamais, nous ne renoncerons jamais.
Fiona Mogadam, merci. Invité de ce journal, Anastasia Colosimo, docteur en théorie politique. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous avez écrit en 2016 « Les bûchers de la liberté » sur la question justement de la liberté d'expression. Anastasia Colosimo, on l'a entendu, Charlie Hebdo décide de republier les caricatures de Mahomet. Comment vous analysez cette démarche? Il s'agit d'un acte de courage selon vous?
C'est évidemment un acte de courage et c'est surtout un rappel d'une histoire qui est beaucoup plus longue en fait que celle qui a été donnée à voir à la communauté internationale, puisque en fait l'affaire Charlie Hebdo, elle ne commence pas en 2015, elle commence en 2007 à la publication de ces caricatures. Et c'est à l'occasion de la publication de ces caricatures qu'il va y avoir un premier grand procès qui va avoir lieu entre 2006 et 2007. Et en 2007, Charlie Hebdo va sortir gagnant. Et en même temps, c'est aussi au moment de ce procès que les caricaturistes de Charlie Hebdo vont défrayer la chronique internationale comme des blasphémateurs. C'est à ce moment-là que Charles va se faire connaître aussi à l'international. C'est à ce moment-là aussi qu'il fera l'objet d'une fatwa, un tout petit peu après ce procès. Et donc, ce qui se passe en 2015 est une tragédie totale et absolue, mais qui suit aussi une histoire et qui répond à cette première publication en 2007, sachant que ce procès qui s'ouvre là aujourd'hui est comme un deuxième procès, un second procès, beaucoup plus tragique, évidemment, cette fois-là. La publication de ces caricatures a coûté la vie à ceux qui les ont publiées, a coûté la vie à des journalistes, à des dessinateurs. Donc, évidemment qu'il y a une manière un peu de provoquer quasiment le sort, de provoquer le destin, de lancer un défi à cette tragédie et de dire que rien jamais ne les fera taire et qu'ils n'acceptent pas la peur dans laquelle toute la société et le monde a été plongé à la sortie de cet attentat.
Ça signifie que 5 ans après, finalement, la liberté d'expression n'a peut-être pas véritablement progressé, puisque ça continue à poser problème, la publication de ces caricatures.
Ah non, mais que la liberté d'expression n'ait pas progressé, ça c'est une évidence. Alors là, je dirais qu'il y a deux niveaux. Du point de vue des consciences, il est évident que partout dans le monde occidental, il y a une régression très forte de ce qui paraît acceptable ou non. Donc ça, c'est la question de la résilience de la société. Et ensuite, d'un point de vue juridique et judiciaire, il est évident que on ne cesse d'empiéter un peu plus sur cette liberté d'expression, dont il ne reste plus grand-chose aujourd'hui.
De quelle façon on empiète sur cette liberté d'expression aujourd'hui en France ?
Vous savez, il y a une vraie question qui se pose, okay, mais pourquoi en fait en France, en 2006, en 2007, dans les années 2000, pourquoi est-ce qu'on considère normal qu'il y ait un procès contre des gens qui publient des caricatures qui portent atteinte à une divinité, non pas à des personnes, mais bien à une divinité ? Et on se rend compte que déjà à ce moment-là, elle était plutôt mal en point, on peut le dire en France, puisque la France est une démocratie libérale, où il y a plusieurs religions présentes sur le territoire, où il y a une liberté de conscience, et donc le blasphème qui a toujours été considéré théologiquement, historiquement, un crime sans victime, devrait être considéré comme un crime sans victime. Or, il a connu des mutations à la faveur d'une sécularisation qui ne s'est pas toujours très bien passée, ou qui n'a toujours pas été toujours très bien digérée ou comprise, le blasphème a été transformé au fil des années, et surtout au fil du second XXe siècle, en offense aux croyants. Et donc toute une batterie de lois qui n'étaient pas du tout destinées à ça, et en France c'était la loi Pleven, ont commencé à s'appliquer à des choses qui étaient 100% du blasphème. Donc on peut dire, voilà, la publication des caricatures, c'était 100% du blasphème, et on a transformé ça en une offense aux croyants. Alors dans la loi française, c'est la loi Pleven, on va dire que c'était de la provocation à la haine, à la discrimination, à la violence en raison de l'appartenance ou non à une religion. Donc vous voyez, on a transformé cette notion de blasphème, elle a été sécularisée. On peut dire déjà en 2006-2007, le seul fait qu'il y ait un procès veut bien dire qu'il y a quand même un malaise au sein de la liberté d'expression. Et la réalité, c'est que une fois que ce procès a été gagné par Charlie Hebdo, personne ne s'est demandé comment est-ce qu'on peut justement faire en sorte que la loi soit mieux faite, faire en sorte que, au contraire, on aille vers plus de liberté d'expression. Comment justement trouver des solutions à toutes ces questions nouvelles qui se posent peut-être à la liberté d'expression dans nos sociétés pluralistes. Bien au contraire, on est allé de plus en plus vers des restrictions toujours plus grandes. La loi Pleven a ensuite donné lieu aux lois mémorielles, la loi Guesso. Mais plus aussi, on a commencé à protéger les groupes et plus, on a aussi commencé à durcir les procédures. Et d'ailleurs, la meilleure preuve de tout ça, c'est la fameuse loi Avia, qui, grâce à Dieu, c'est le cas de le dire, a été censurée par le Conseil constitutionnel, mais qui représente en fait toute cette tendance assez extraordinaire de limitation. Alors toujours pour de très bonnes intentions, hein, mais de limitation toujours plus forte de la liberté d'expression, avec, à mon avis, vous voyez, une mécompréhension de ce qu'est la liberté d'expression. La liberté d'expression n'est pas là pour protéger des discours sympathiques et agréables. La liberté d'expression est justement là pour protéger des discours qui heurtent, choquent ou inquiètent.
Anastasia Colosimo, merci d'avoir été l'invitée de France Culture ce soir. Je rappelle votre ouvrage publié en 2016, Les bûchers de la liberté, paru aux éditions Stock, et retrouvez dès à présent sur franceculture.fr nos articles sur le retour des caricatures de Mahomet à la une de Charlie Hebdo. C'est un terme venu de la droite radicale qui semble diviser aujourd'hui le gouvernement. La société française serait en proie à un véritable ensauvagement, selon le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, un terme récusé ce matin par son collègue de la justice Éric Dupond-Moretti. Pour l'ancien avocat, parler d'ensauvagement alimenterait le sentiment d'insécurité. En déplacement à Châteauroux pour la rentrée scolaire, Jean Castex a tenté d'éteindre la polémique. Yaël Gauz, voilà le Premier ministre déjà obligé d'arbitrer entre deux membres de son gouvernement.
Ben oui, puisqu'on en est à compter qui, au gouvernement, fait entrer ce mot dans son dictionnaire personnel. Concept lourd de référence, entré il y a longtemps maintenant dans le langage courant de Marine Le Pen. Alors pas le président, qui préfère parler de banalisation de la violence, pas le garde des Sceaux, vous l'avez dit, pour qui ce mot flatte les bas instincts, ensauvagement rhétorique et sémantique au sein de l'exécutif et un Castex casque bleu ce midi depuis Châteauroux.
Fermez le banc, il n'y a aucune polémique. Le vrai sujet, en revanche, c'est bien celui de nous mobiliser. Il y a une montée du sentiment d'insécurité. La question n'est pas les mots qu'on emploie, mais les actions que l'on met et que l'on va mettre en place pour y faire face.
Le Premier ministre au micro d'Yannick Falt, tout de même, hein, Jean Castex, qui avait déjà pris ses distances avec le style Darmanin, c'était mercredi dernier à ce micro.
Il faut se garder de faire du matamorisme. Il faut agir.
Matamorisme, notion zoologique. Quand un félin, par exemple, gonfle pour effrayer l'ennemi. Dupond-Moretti, animal politique en devenir. En tout cas, libre, il refuse ce clivage entre laxiste et sécuritaire. Il dit ce qu'il pense, se félicite l'un de ses conseillers. Chez Darmanin, on insiste sur deux ministres qui parlent différemment, mais agissent de concert contre l'usage des drogues, par exemple. Mais de là à retirer l'ensauvagement de son bréviaire, c'est non. Je le réitère, a dit cet après-midi le ministre de l'Intérieur. Il était en visite à Choisy-le-Roi.
Yael Gauz sur l'antenne de France Inter dans le journal de 19h. Aéroport de Paris s'apprêterait à supprimer 700 emplois sur 6300. C'est le syndicat UNSA qui l'affirme à l'issue d'une réunion de négociation avec la direction. ADP subit l'impact de la crise sanitaire qui a considérablement réduit le transport aérien. Toujours selon l'UNSA, la direction d'ADP propose un accord de performance collective qui prévoirait des réductions de salaire et une augmentation du temps de travail. Emmanuel Macron tente de relancer le processus politique au Liban. Le président français est arrivé à Beyrouth hier soir. Son deuxième séjour dans le pays depuis l'explosion qui a ravagé le port le 4 août dernier. Il recevait ce soir les principaux dirigeants politiques libanais à la résidence de l'ambassadeur de France. Christian Chesneau, vous êtes notre envoyé spécial à Beyrouth.
Emmanuel Macron veut maintenir la pression sur les chefs politiques libanais. Il espère les convaincre de former rapidement un gouvernement de mission, c'est-à-dire un cabinet capable de lancer très vite des réformes. Emmanuel Macron ne veut pas de faunés dans la nouvelle équipe gouvernementale, c'est-à-dire des ministres technocrates qui travaillent en fait en coulisses pour leur parrain politique et non pas pour le bien du pays. Sinon, répète le président français, les 11 milliards de dollars de dons et de prêts de la conférence Cèdre organisée à Paris en 2018 ne seront pas décaissés. Il vient leur rappeler la feuille de route qui doit être mise en œuvre sur des dossiers très sensibles comme l'audit de la Banque centrale du Liban, la réforme du statut du port de Beyrouth ou encore la restructuration du secteur de l'électricité. Et pour bien se faire comprendre, Emmanuel Macron a commencé à agiter le bâton, c'est-à-dire la menace de sanctions ciblées contre certains caciques politiques libanais si d'ici 3 mois, rien ne se passe.
Christian Chesneau et Fabien Gosset, envoyés spéciaux de France Culture au Liban. Emmanuel Macron qui indique ce soir que les forces politiques libanaises se sont engagées à former un gouvernement de mission dans les 15 jours. Autre président, autre visite et autre contexte surtout. Donald Trump est arrivé ce soir à Kenosha, cette ville du Wisconsin secouée par des émeutes après les tirs policiers contre Jacob Blake, ce jeune noir toujours hospitalisé dans un état grave. En campagne pour sa réélection le 3 novembre prochain, Donald Trump a martelé son credo, la loi et l'ordre. Le président américain qui assimile les manifestations violentes à du terrorisme intérieur. Dimanche dernier, l'un de ses partisans avait été tué par balle à Portland, un bastion démocrate. Hier soir, à la télévision, le locataire de la Maison-Blanche avait utilisé une curieuse rhétorique pour définir le climat actuel de violence aux États-Unis. Grégory Phillips nous appelle de Washington.
Mr. President, thank you so much for joining us.
Donald Trump est l'invité de la grande émission du soir sur Fox News, présentée par Laura Ingraham, connue pour ses positions ultra-conservatrices. Mais quand la journaliste demande au président qui se trouve derrière les manifestations de Portland, et d'ailleurs, même elle paraît intriguée par sa réponse. Des gens qui sont dans l'ombre, des gens dont vous n'avez jamais entendu parler. Laura Ingraham interrompt Trump. Ça sonne un peu comme une théorie du complot, non ? Pas du tout, répond le président. Ces gens contrôlent les rues. Quelqu'un, ce week-end, dans une ville, est monté dans un avion. Et dans cet avion, il a vu des voyous en uniforme, noirs, équipés. Ils étaient dans l'avion. Puis la présentatrice revient sur les événements de Kenosha et ce policier qui a tiré 7 balles dans le dos de Jacob Blake. Mais Donald Trump a une explication sur ce qui s'est passé. Peut-être que l'individu allait se saisir d'une arme, donc les policiers ont craqué. Vous savez, un peu comme dans un tournoi de golf, quand on rate un putt à 1 mètre de distance. Parfois, les gens craquent. Laura Ingraham reprend Donald Trump. Ne comparez pas ça au golf, car vous savez, c'est ce que les médias vont retenir. Même elle, la star de Fox, semble décontenancé par les propos du président.
Grégory Phillips, notre correspondant aux États-Unis, Donald Trump qui a balayé aujourd'hui les rumeurs selon lesquelles il aurait souffert en novembre dernier d'une série de mini AVC qui l'aurait contraint à une hospitalisation. La visite surprise du chef de l'État américain septuagénaire à l'hôpital militaire de Walter Reed avait à l'époque provoqué des spéculations sur son état de santé, spéculations démenties par le médecin de la Maison-Blanche. Dans un livre publié aujourd'hui, un journaliste du New York Times assure sûr que lors de cette visite médicale, le vice-président Mike Pence, premier dans l'ordre de succession du président, se tenait prêt au cas où Donald Trump aurait eu besoin d'être anesthésié pour une intervention médicale. On termine ce journal avec le temps demain, variable sur la majeure partie du pays, quelques averses sur les reliefs de l'Est et des nuages sur la moitié nord. Ailleurs, le soleil dominera. Les températures minimales iront de 6 à 20 degrés du nord au sud. Les maximales seront comprises entre 20 et 28 degrés. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Nathalie Lopez.